La main verte d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Bonjour mon cher Eric, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Alain.
On va parler de l'échalote ce matin. Est-il toujours possible d'en ramasser dans la nature ?
Votre question est intéressante car il est vrai que les légumes ont été si exploités par les hommes que beaucoup ont totalement disparu à l'état sauvage. Faire la cuisine simplement en se promenant avec un panier est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. De plus, les plantes n'ont eu de cesse d'être sélectionnées, améliorées, hybridées. Autant vous dire qu'elles ne ressemblent plus beaucoup à ce qu'elles étaient à l'origine. Alors donc pour vous répondre, oui, il est encore possible d'en trouver le long des chemins, mais à condition de partir au Moyen-Orient.
Ah, et depuis quand est-il possible de manger de l'échalote en France ?
Il paraîtrait, mais j'emploie le conditionnel, que la plante aurait été ramenée de Palestine par l'empereur romain Marc Aurèle, un sale type, et oui, j'ose le dire, qui s'amuse à jeter sous les sabots d'un taureau une jeune femme emprisonnée dans un filet. Je veux parler bien sûr de Sainte Blandine. Vous imaginez un petit peu les mœurs de l'époque, épouvantables.
Une autre version évoque Godefroy de Bouillon.
Celle-ci est beaucoup plus soft, et cet homme est le premier français à partir en croisade en 1095. Il aurait alors découvert l'échalote en assiégeant la ville d'Ascalon, alors située en Palestine. Cette ville, aux mains des Égyptiens, était alors appelée Escaluine, avant de devenir échalote au XVIe siècle.
Ah, mais il vient de là.
Et oui, et quand le célèbre botaniste Carl von Linné, j'en parle souvent de cet homme, baptise officiellement la plante deux siècles plus tard, il la nomme Allium ascolonicum, échalote.
Et il faut préciser aussi qu'il existe pas mal de variétés d'échalotes. Hein, combien ?
Alors, une soixantaine, mais 22 seulement sont cultivées dans notre pays. Et c'est déjà beaucoup. Les principales sont bien sûr les roses et les grises qui sont de plus loin les plus appréciées.
Et comment est-ce qu'on cultive bien des échalotes dans son potager ou son jardin ?
En respectant quelques règles simples. Le bulbe déteste les terres humides et les fumures organiques. Pas de fumier sur un terrain au minimum 2 ans avant la plantation. Pour les dates de plantation, le mieux est de faire confiance à la sagesse paysanne et appliquer le dicton « Plantez-la le jour le plus court de l'année, récoltez-la le jour le plus long ». Ce n'est pas plus compliqué.
L'échalote ce matin dans les mains d'Alain Baraton. Vos conseils aux auditrices et auditeurs de France Inter, Alain, à présent avec Hélène. Elle a fait germer avec ses enfants des pépins de fruits. Les graines ont germé, les pépins ont germé, si bien qu'elle a maintenant 2 pouces de pommiers. La question, faut-il mettre ses pouces au jardin?
Je crois qu'on ne peut jamais anticiper l'hiver. L'hiver peut être doux, il peut être terriblement rigoureux. Quantité de plantes qui résistent aux hivers, même les plus froids, produisent des plants qui sont fragiles. C'est un peu comme nous. Je ne connais pas la température minimale pour un nouveau-né, mais je présume qu'un nouveau-né a besoin d'une certaine chaleur. Les plantes, souvent, sont dans la même situation. Quand le pommier produit un fruit, ce fruit tombe au sol à l'automne. Et généralement, et en toute logique, les feuilles mortes viennent ensuite dessus le fruit et font ainsi une couche qui protège la graine du froid. Donc, pour éviter d'être triste de voir ces plants de pommiers mourir, attendons le printemps, c'est beaucoup plus sage.
Attendons le printemps, la sage décision d'Alain Baraton.
À propos de sagesse, si vous le permettez, il y a aujourd'hui, au parc floral de la ville de Paris, une manifestation qui est très jolie, que je trouve très belle, qui s'appelle le village botanique. C'est une occasion de rencontrer des passionnés autour du sujet le végétal. Donc c'est aujourd'hui parc floral de botanique, c'est un lieu de rencontre magnifique, un jardin à découvrir, et toutes ces questions sont abordées par des gens qui s'y connaissent, d'autres qui s'y connaissent moins, et d'autres qui veulent apprendre. C'était juste une petite parenthèse.
J'y serais ?
Non, je n'y serais pas, et je le déplore. Je serai avec vous, je vous rappelle.
Le jardin botanique près de Paris.
À Venise.
Vous serez à Venise ?
Non, je plaisante.
Ah bon, mais dites-moi, je suis pas au courant de tout. Mais
avec moi à Venise, mais vous rêvez, il dit n'importe quoi.
Des promesses, des promesses. Jean-Pierre veut vous demander si son jasmin étoilé qu'il a planté pousse petitement avec ses feuilles qui deviennent rouges et les feuilles ne tombent pas. Alors, des feuilles rouges qui ne tombent pas, qu'est-ce qui se passe ?
Ben écoutez, je crois que la meilleure façon de bien cultiver son jardin, c'est d'apprendre l'histoire des plantes et de connaître leurs exigences et surtout comment elles se comportent.
Alors, le jasmin étoilé, là.
Ben, c'est une plante magnifique, à ne pas confondre avec le vrai jasmin que celui que l'on voit d'ordinaire. Le jasmin étoilé produit des feuilles d'un très joli vert, un vert même sombre en été, qui rougit à l'automne et en hiver, et qui est persistant, donc qui ne tombe pas. La situation est donc totalement normale. Notre ami, simplement, ne connaît pas encore le fonctionnement exact de cette plante. Mais c'est exactement comme d'autres végétaux qui peuvent changer de teinte au fil du temps. C'est tout à fait normal.
Romain possède un figuier, mais ce figuier est attaqué par de petites bêtes noires, elles-mêmes protégées par des filaments blanchâtres. Alors, il a bien essayé, Romain, la fameuse décoction Baraton, hein, celle qui est à base de mélange d'alcool, de savon noir et puis avec de l'eau.
Oui.
Mais ça n'a pas l'air de fonctionner, s'étonne Romain. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? D'abord, il vous demande si ce sont des pucerons.
Alors non, ce ne sont pas des pucerons. Le remède miracle dont je parle de temps en temps à ce micro, c'est contre les cochetilles. Et là, il n'y a aucun doute d'après la description. Il s'agit de la teigne du figuier. C'est un petit papillon qui se construit un petit cocon dans le pli de la feuille et qui peut provoquer quantité de dégâts. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut plus, et c'est heureux, mettre de produits pour détruire cette bestiole. Il faut encourager le retour des oiseaux. Laissons donc la nature faire. Mettons éventuellement des pièges à phéromones. Les pièges à phéromones sont également des pièges qui sont ce qu'on appelle des perturbateurs sexuels. C'est-à-dire que ça attire les mâles ou les femelles, ou alors des mâles sont complètement paumés, ils ne savent plus où ils vont. C'est assez efficace. Et puis, si vous deviez mettre des bandes collantes pour coller les bestioles, attention, je ne cesse de le dire, aux petits oiseaux qui ne viennent pas se mettre dessus.
Vous savez que nous parlerons dans quelques minutes avec notre invitée Sabine Melchior-Bonnet à propos de la rupture. Nous parlerons probablement d'histoire de phéromones.
Oui, mais certainement, mais l'occasion de rappeler justement qu'il y a de grandes histoires d'amour entre les hommes et les femmes et les plantes. Et je ne sais pas si un homme est capable de rendre heureux un végétal, mais un végétal incontestablement peut rendre le sourire à quelqu'un.
C'est bien dit. Allez, un dernier conseil, lecture pour terminer.
Et oui, comme le dit l'éditeur lui-même, ce sont les éditions des Équateurs. Quand on oublie les oliviers, la planète brûle. Émilie Borel le sait, c'est son métier. Elle a publié un ouvrage poignant, Les secrets de l'olivier, un ouvrage vraiment à lire, voire à dévorer.
Les conseils, les bons conseils d'Alain Baraton, c'était La Main Verte. Merci Alain.
Merci.